le paroxysme de toute cette démence et l'épisode qui fit réellement passer l'invasion des singes de l'état d'anecdote à celui de mythe régional, car en dehors de la capitale, on a encore du mal à croire que tout cela se soit vraiment passé, eut lieu dans un supermarché. Un supermarché Lidl, en l'occurrence. Jusqu'à présent, les singes s'étaient contentés de quelques gamineries, consistant la plupart du temps à changer les produits de rayon. Cacher des canettes de bière sous les grappes de raisin, disposer du poisson frais dans des bacs à légumes, remplacer les saucissons suspendus par des courgettes, dérouler du papier toilette pour en faire des banderoles, ou tout simplement déplacer les étiquettes de prix. Des jeux d'enfants au sens premier du terme, et qui me rappelèrent ma propre jeunesse. Mais un après-midi, et ce doit être celui du troisième jour, car si je me souviens bien, ce fut à la suite de cet incident que l'on chassa définitivement les singes de la ville, ou plutôt que l'on mit tout en œuvre pour les reconduire vers leur cage, la cohabitation n'ayant pas jusqu'à cet après-midi dépassé les limites du supportable, ni, pour employer l'expression idoine à ce genre de situation, troublé l'ordre public. Un après-midi, donc, l'on comprit qu'il était grand temps que la ville recouvre son calme, et si ce n'est pour des questions de sécurité physique, du moins pour des raisons de salubrité mentale, car cet après-midi, on réalisa très clairement que les habitants de Santiago étaient en train de perdre la tête. Ce qui se produisit est simple à comprendre, quoique difficile à imaginer et presque impossible à décrire si l'on n'était pas présent dans ce Lidl cet après-midi. Et même si l'on y était, tant la confusion générale empêche une reconstitution sérieuse des événements. Il s'agit en fait d'une gigantesque bataille de nourriture entre singes et hommes. On ne sait pas vraiment comment les hostilités se déclenchèrent. Mais l'on peut facilement penser que le premier singe qui, ayant saisi un pot de crème fraîche, s'avisa de le jeter à la face d'une vieille dame et trouva une vieille dame assez joueuse pour riposter, celui-là fut le véritable instigateur de la bataille de nourriture. Mais ce n'est pas ce qui se produisit. Tout commença en réalité par une vieille blague. Une blague vieille comme le monde. Une blague éculée, il faut en convenir, mais qui, interprétée par un singe, retrouva tout son comique et même, j'imagine, dut paraître à ceux qui y assistèrent tout à fait rafraîchissante. Un singe, donc, sort une banane quelconque d'une étale de fruits. Comme pour faire honneur à un vieux stéréotype propre à son espèce, il la dévore avec sur le visage un air de contentement exagéré, bien supérieur, je crois, à celui qu'il ressentit réellement en mangeant cette banane. Une fois sa banane avalée, il jeta derrière son épaule un coup d'œil coquin et, apercevant un grand monsieur inattentif, lança discrètement la peau de banane quelques centimètres devant lui. Tout se passa comme tout devait se passer, et l'homme glissa pathétiquement sur la peau de banane. Contrairement à ce que l'on serait enclin à penser, il ne tomba pas en arrière, mais bien en avant. Et c'est là tout le problème, car, ajoutant une maladresse innée à une malveillance subie, il ne parvint pas à céder de ses mains pour amortir la chute. Il perdit sa dignité et aussi plusieurs dents. L'on pourrait penser que le début véritable des hostilités, je veux dire là où entrent en jeu les projectiles, fut l'initiative d'un homme voulant venger ce membre humilié de sa race ou d'une coalition d'hommes se saisissant du moindre prétexte pour s'en prendre aux singes. Ce ne fut pas le cas. Ce qui se passa, au contraire, fut qu'un second singe, que je considère personnellement comme la vraie personne à blâmer dans toute cette histoire, tira sur l'ambulance. En l'occurrence, il agressa un homme à terre et lui envoya sur le crâne un lourd melon trop vert qui lui fit pousser un cri aigu, rajoutant cruellement au ridicule, l'assomma vaguement, puis roula sur le carrelage du supermarché, encore bruyant, et qui, peu à peu, se tut. La suite a été beaucoup racontée. Et si je ne suis pas certain qu'il en existe un récit écrit, plus ou moins complet, c'est une histoire qu'on se raconte encore souvent lorsque l'on veut décrire le point d'orgue de toute cette folie. Disons-le tout de suite, le singe au melon fut mis hors course sur le champ par une conserve de haricots reçue en plein plexus. Puis l'agresseur fut agressé. Il se passa encore des choses, puis trois babouins parmi les plus robustes firent battre en retraite le charcutier. Ils prirent possession de ce point stratégique car protégé par une longue plaque de verre, peut-être du plexiglas. Depuis leur abri, ils canardèrent avec férocité les hommes qui osèrent s'approcher. On vit voler de nombreuses tranches de salami, de jambon, de prosciutto, de bressaola, de saucisson, mais principalement du salami, car il s'avéra plus facile à faire voler et voler plus longtemps. Il semble que les tranches aient eu la largeur parfaite. Certains lancers étaient si adroitement exécutés que les tranches se comportaient en frisbee et revenaient attaquer les hommes par la nuque. Tout le temps que dura l'assaut du stand de charcuterie, les trois babouins se comportèrent en véritables héros de guerre. Ils vidèrent les étals avec vitesse et dextérité, et plus d'un homme fut mis à terre par des jets de cochonaille dans les chevilles ou terrassé par de lourdes terrines en peau. On dit même avoir vu un sanglier entier voler à travers le supermarché. À ce moment-là, l'idée n'était pas encore venue aux hommes de rendre les sols glissants. Puis elle leur vint, et les babouins furent défaits. Ou plus précisément, elle vint à un jeune élève ingénieur qui raconte, quand on lui demande, ne plus se souvenir par quel cheminement intellectuel il passa pour penser à verser du liquide vaisselle sur le carrelage. Le fait est que l'idée lui vint, qu'il l'exécuta, et que les babouins, pris par surprise, se retrouvèrent sur les fesses, gigotant, aussi impuissants à se relever qu'une tortue à se retourner. On les recouvrit d'une grande bâche que l'on noua, puis on les enferma dans la réserve en attendant l'arrivée des forces de l'ordre. Dans le reste du supermarché, le chaos était total. Plus agiles que les hommes, les singes avaient pris les positions hautes. Ils s'étaient hissés sur les étagères pour avoir une vision d'ensemble de ce qui ressemblait désormais à un siège. Depuis leur forteresse sans rempart, ils purent s'apercevoir que le combat était perdu d'avance. Les hommes étaient plus nombreux, pour certains plus forts, et surtout les humiliations subies pendant les 3 jours qui avaient précédé les avaient dotés d'une ténacité nouvelle. Prenant exemple sur le jeune ingénieur, quitte à être accusé de manque d'imagination, les singes déversèrent des paquets entiers de céréales Nesquik et ces petites billes mirent un temps les hommes en déroute. Ils jetèrent sur les hommes tous les aliments qui leur passaient par les mains, des plus inoffensifs comme la laitue, dont les lancers témoignaient d'actes désespérés, aux plus létaux comme les pots de confiture ou les bouteilles de vinaigre balsamique. Mais les hommes, ayant recouvré pour l'occasion leur lucidité, se mirent à plusieurs et abattirent les rayonnages un par un, faisant tomber les singes moins à l'aise dans les combats au sol. Il faut ici rendre hommage aux singes, qui luttèrent jusqu'à ce que le dernier gibbon fût mis KO par un coup de conserve derrière la tête. On ramassa les singes blessés, on les empila dans des fourgons réfrigérés et on les amena au dispensaire du zoo du Cerro San Cristobal. À la suite de cette dernière déroute, beaucoup de singes se dirigèrent d'eux-mêmes vers leur cage, en file indienne, et la tête baissée comme des pénitents. Même si leur cortège fut protégé, car les singes représentaient une source non négligeable de revenus pour le zoo, on ne put empêcher que quelques bêtes se fassent écharper par des hommes lâches et revanchards. D'autres, plus tenaces, durent être ramenés de force, mais il s'agissait d'individus isolés, qui en fin de compte, n'avaient plus vraiment de ressources pour lutter seuls contre un contingent humain désormais ragaillardi et déterminé à mettre un terme aux humiliations. Enfin, quelques-uns, les plus discrets, parvinrent à tromper la vigilance des forces de l'ordre et à s'évaporer dans la nature. On les soupçonne d'avoir pris la route des Andes à la recherche de territoires moins habités, moins hostiles. Et s'en fut fini de la terreur animale à Santiago. Plus tard, mais alors vraiment plus tard, pas nécessairement des mois, mais bien de longues semaines après que les singes eurent été mis hors d'état de nuire, on retrouva les derniers rescapés de la libération du zoo. Il s'agissait de 3 chameaux, selon les dires des randonneurs qui les découvrirent, particulièrement indolents, qui, pour une raison étrange, étaient passés jusqu'ici inaperçus. On les retrouva, à l'extrême sud de Santiago, en dehors même de la ville pour être précis, au Cajón del Maipo, et s'il n'est pas surprenant qu'on ait mis du temps à mettre la main dessus une fois qu'ils avaient atteint cette petite chaîne de montagnes, il demeure difficile à croire qu'ils aient pu traverser la ville du nord au sud sans que personne ne s'en aperçoive.